Bonjour, Marco compte à rebours. Compte à rebours sur CFM, des contes, des histoires, des racontars, des sornettes, des vérités sans doute aussi, des mensonges, des légendes, des mythes, et depuis la semaine dernière, des récits de vie. Et je continue aujourd'hui parce que, je vous l'ai déjà dit, la semaine dernière, je participais à un événement qui s'appelle le Temps de Dire dans le Tarn. Six conteurs sur les chemins et les routes du Tarn collectent des récits et les racontent à l'étape suivante. Donc voilà, toute une aventure. Et donc j'ai recueilli des récits que je me permets de restituer plus ou moins ici à l'antenne. En fait, ce Temps de Dire, c'est un peu un pari. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on demande à des gens « Voulez-vous raconter votre vie ? Avez-vous quelque chose à dire ?» Ils disent « Non, je n'ai rien à dire. Ma vie n'est pas intéressante. Tout là là, mais il faut aller voir quelqu'un qui a étudié, quelqu'un d'intelligent. Moi, j'ai rien à dire de vraiment intelligent. » Et oui, l'intelligence. Le pari du Temps de Dire, c'est que l'intelligence, au fond, ce n'est pas quelque chose qui appartient à quelqu'un. L'intelligence est partout, dans la nature, dans les choses, dans le monde, partout à l'œuvre. On s'imagine souvent la détenir et on dit qu'elle a pour siège le cerveau humain. Du coup, on s'imagine qu'il y en a certains, des grosses têtes, dans des universités, qui ont des choses à dire parce qu'ils sont intelligents, ils ont compris. Mais croire que ça fonctionne comme ça, c'est un peu croire qu'il y a une speakerine dans la boîte appelée télévision. L'intelligence est partout à l'œuvre et parfois nous sommes à l'unisson, nous avons des éclairs d'intelligence tous autant que nous sommes. Mais il y a une certaine arrogance à s'approprier cette intelligence. C'est comme dire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, ou Newton la gravité. Les Indiens et les pommes n'ont pas attendu leur découverte pour savoir ce qu'ils avaient à faire. L'intelligence est moins celle de Newton que celle de la subtilité de la gravité. La beauté, le courage sont plus encore dans l'Amérique elle-même et ses peuples natifs que dans Colomb. Bref, maintenant, on veut breveter le vivant. On est en recherche d'appropriation génétique. Toujours les mêmes histoires et pourtant, on peut reprendre le pouvoir. Tout est ensemble. Et l'intelligence est partagée. Et nous avons tous des choses vraiment extraordinaires à raconter. C'est le pari du Temps de Dire. Et aujourd'hui, je vais partir à Giroussens, un village du Tarn qui est très joli, d'ailleurs très bien placé au-dessus de la Goutte. Il y a une espèce de falaise, on domine, c'est magnifique. Et là, j'ai rencontré des arbres, des animaux, hein, des faisans, mais tout cela, je vous le raconterai plus tard. Aujourd'hui, je vais juste me contenter de vous raconter l'histoire de quatre personnes. Et si la vieillesse était le plus bel âge de la vie ? J'ai rencontré quatre vieilles personnes heureuses, souriantes, les yeux brillants. Ben c'est vrai, 80 ans, plus de soucis de l'avenir, c'est pas à cet âge qu'on s'occupe de bâtir une maison. Pas de soucis de travail non plus, c'est si loin. Le jardin, la chasse pour certains, le bon temps avec les amis, à évoquer les bons souvenirs, raconter des histoires et siroter le jus de la treille. Oui, bon, Je sais ce que vous allez dire tout de suite. Les histoires qu'il va nous conter là sont sorties de la bouche d'ivrogne pour entrer dans l'oreille d'un autre ivrogne. Ce n'est pas très sérieux comme collectage. Détrompez-vous. Ce jus de la Treilla nous est servi par Madame Campagne. Et c'est elle qui l'a extrait de ses raisins, sans aucune fermentation postérieure. Madame Campagne n'aime pas laisser ce que la nature offre se perdre. Les coins, les murs, les prunes, tout est bon. Elle nous offre des biscuits, des graines de raisin, son jus de raisin, écoute les hommes qui parlent et s'offusquent. Quand nous rions des déboires d'anciens personnages de Girosens, même s'ils sont morts depuis des lustres. Madame Campagne est sur le côté, toujours à me parler à l'oreille, pour me dire non, ça il ne faut pas le répéter. Et devant moi, j'ai un grand, un fort et un maigre. Le grand, c'est Monsieur Campagne, ancien instituteur, né dans les années 30, dans une famille nombreuse, et il vivait dans une magnifique maison de maître. Et enfin, qui était occupée, en fait, par le sous-préfet de Montauban. Il venait le dimanche et pour quelques vacances avec sa femme et ses enfants. Eux, la famille nombreuse, les 8 enfants, ils vivaient dans les dépendances de cette grande maison de maître. Ils n'avaient aucune clé de la maison. Les dépendances, eh bien, il y avait quand même une chambre neuve parce qu'elle avait une fenêtre, celle-là. Oh, mais pourtant, ce n'était pas si triste, nous dit Monsieur Campagne. Il en garde que de bons souvenirs, comme cette fois où ils avaient tué le cochon. Et comme il se doit, le soir, eh bien, on avait mis le chaudron pour cuire le boudin. La cheminée s'allume, mais tout de suite, ça fume. Oh, ça arrivait, alors on est là pour faire du tirage, on ouvre la porte. Mais ça fume, ça fume, ça fume. Et c'était normal. Parce que si vous passiez dehors, vous auriez vu une échelle posée contre le mur de la maison qui allait jusqu'en haut de la cheminée et tout là-haut, un gars avec une planche qui empêchait la fumée de sortir et en bas, un autre qui tenait l'échelle. C'était les deux fiancés des deux filles qui étaient dedans. Ils étaient 8, hein. Il y avait deux grandes filles qui avaient leurs deux fiancés. La première à comprendre, ça a été la mère. Elle a appelé tout de suite « Piquette, Piquette !» Piquette, tout le monde la connaissait dans le coin. C'était une chienne dont il fallait se méfier. Les vaches devaient s'en méfier. Elle leur mordait les chevilles, les hommes aussi. Il fallait faire attention. « Piquette, Piquette, sors vite !» Piquette est sortie. Mais là-haut, les fiancés connaissaient Piquette aussi. Ça a été la débandade. Il y en a un qui a parti, qui a lâché l'échelle. L'autre qui est descendu tant bien que mal. Ils ont filé dans le bois. Un peu plus tard, un est revenu et l'autre pas. Celui qui est revenu, finalement, s'est marié avec sa fiancée. Celui qui n'est pas revenu parce qu'il s'était blessé, ben finalement, les fiançailles ont été rompues. Mais on dit que la fille a beaucoup moins pleuré pour ses fiançailles rompues que pour la fumée qu'il avait fait ce jour-là dans la cuisine. Ils se mettent alors à parler des personnages de Girosens, des anciens personnages, et il y en a eu, bien sûr. Je ne peux pas tous les citer, mais il y en a qui méritent qu'on s'y arrête, notamment l'Arfaillou, celui qui tenait la scierie. Et il boitait, il avait un pied beau. Bon, ça, il ne faut pas se moquer des gens infirmes, m'a dit Madame Campagne. Attention, c'est vrai, on ne se moque pas, mais il était boiteux, maigre et très lent. Et pourtant, c'était un casse-cou. Il était d'ailleurs cassé de partout. Il raconte une anecdote. Il était en train de lever une grume avec son trinque-balle. C'était une espèce de manivelle de treuil pour lever les billes de bois sur son camion. Le camion qui s'appelait Amédée, avec lequel il allait chercher des arbres dans la forêt de la Grésigne. Il était là à tourner sa manivelle, mais voilà que soudain, est-ce que le crâne de sûreté n'était pas mis, le cliquet ne s'est pas bloqué, d'un seul coup, la manivelle lui échappe et boum, elle lui tape sur le dessus du crâne. Et aussitôt, le sang se met à couler de ses cheveux, un sang rouge et épais. Et lui, hop, espérance, pas Sarah. Voilà comment il réagissait devant les ennuis qui lui arrivaient. Ce n'est rien, ça passera. Il avait une femme qui était toujours après lui avec sa canne. Allez, tu viens ! Devant la porte de la maison, elle l'appelait. Mais lui, qui allait lentement et qui avait tellement de travail avec ses grumes à scier, il disait « Ouais, plus tard !» Et il continuait à scier son bois. Vers la fin de sa vie, il était devenu si lent et si fatigué qu'il ne sortait plus la sciure et les copeaux. Et devant la petite porte qui menait à son atelier, il y avait un tas qu'il fallait grimper dessus, redescendre pour pouvoir enfin entrer dans l'atelier. Il a fini sa vie en beauté pour un casse-cou qu'il était, en deux chevaux, un stop qu'il a grillé et un camion qui allait vite. Mais ça, il ne faut pas le dire, me dit Madame Campagne. Il y en a des histoires dans ces campagnes, comme partout, des histoires de chasse, par exemple. Mais je vais vous parler d'un autre personnage avant de terminer. D'abord, pour Monsieur Campagne, il a été instituteur toute sa vie. Un peu, quand même, l'ancienne école, si on peut dire, puisque à Lavaur, on raconte qu'à Lavaur, en sixième, lorsque un professeur passait derrière un élève et que celui-ci brusquement rentrait la tête dans les épaules, on lui disait « À toi, t'es de Girosens !» Eh oui, parce que c'était quand même assez, comment dire, mouvementé, les corrections et les menaces. Comme dit Monsieur Campagne aujourd'hui, oh, c'était idiot, mais qu'est-ce que vous voulez? Il fallait bien avoir les bases pour démarrer en sixième. Et après, les voilà qui se mettent à évoquer un homme sourd. Eh oui, on en a toujours des anecdotes avec un homme sourd. La fois où son fils lui avait demandé des sardines et qu'il avait ramené de la salade, des choses comme ça. Un homme sourd. Mais son fils, justement, lui, était carillonneur. Oui, ce ne sont pas les carillons du fils qu'il faisait sonner qui ont rendu le père sourd. Ce serait trop simple. Il était carillonneur. Comme son père, il était pauvre parce qu'il vivait dans une famille qui, ils étaient simplement des bras qui se louaient ici ou là. Mais lui, en plus, il était carillonneur. Il avait, petit à petit, eu envie d'écrire parce qu'il était allé à l'école et il a commencé à faire son journal. Et c'est ce journal que m'a tendu Madame Campagne. Elle m'a dit « Vous devriez le lire ». Et je l'ai lu, effectivement, le journal du petit carillonneur de Girosens. Allez, au hasard, mardi 30 août, 1977, 20h. Le stylo est mon seul ami. Je ne vais ni au bal, ni aux fêtes. Je ne fréquente aucune jeune fille, mais je les aime toutes. Je ne suis pas comme les autres, je suis un être à part. Et je sens bien que je resterai célibataire. Je vais bientôt finir mes 27 ans. Qui donc va penser à mon anniversaire? Mais si personne ne pense à moi, je ne peux m'empêcher de penser à celle qui m'a donné le jour. J'irai au cimetière. Tout à l'heure, il me faudra préparer l'église, car non seulement je suis carillonneur, mais encore il me faut préparer l'église pour les offices. Parfois, il me faut bouger plus de 200 chaises. J'aime entendre le son des cloches carillonner gaiement dans l'azur, auxquelles des centaines d'oiseaux mêlent leurs cris aigus. Mardi, 18 octobre, 18h. J'arrive devant d'Angers, je suis très fatigué. Nous pensions terminer au début de cette semaine, mais nous en avons encore jusqu'à vendredi. Après, il y aura le maïs à ramasser jusqu'à mi-novembre. Heureusement, car nous ne vivons que de ces journées que nous faisons. Demain après-midi, mon père ira à Albi à cause de sa surdité. Je suis obligé de crier toute la journée pour me faire comprendre, et il m'arrive souvent le soir d'avoir mal à la gorge, et je ne suis pas le seul. Son père ira se faire mettre un appareil pour sa surdité, mais il ne le supportera pas. Il l'enlèvera, il ne le gardera pas, il restera sourd. Et sur la fin de sa vie, comme il habitait au centre de Jérusalem, devant la rue passante qui arrive en haut, qui monte, qui redescend, un endroit stratégique, il était assis là tout le temps. Bien sûr, tous ceux qui passaient, qui avaient besoin de renseignements, s'arrêtaient pour le lui demander. Il était sourd, le pauvre. Et il a vite compris que pour ne pas compliquer les choses, il fallait trouver une stratégie simple. Chaque fois qu'une voiture se garait, que la vitre se baissait, lui, il levait le bras et il disait « Il fait beau, hein ?» Inévitablement, la vitre se refermait alors et la voiture partait plus loin chercher ce renseignement. Ce père allait aussi à Rabastens en vélo chercher le pain parce qu'il était un peu moins cher qu'à Jérusalem. Oh, ça fait 9 km, je crois, quand même. Oui, une drôle d'époque, ce fils, ce carillonneur. Il était amoureux de sa cousine. Il l'a jamais fréquentée, comme il dit. Il est resté seul toute sa vie. Monsieur Campagne, avant de partir, me confie qu'il lui a vendu sa 2 chevaux. Enfin vendu, dit-il. Il devait me la payer. Et il me raconte une histoire. Il me dit que vous savez qu'il a fait facteur à Lavore les dernières années de sa vie. Et malheureusement, ils ne l'ont pas gardé parce que ils ont retrouvé dans sa 2 chevaux tout un tas de lettres qu'il ne distribuait pas. Allez savoir pourquoi. Oh, ça, il ne faut pas le dire, me dit Madame Campagne, c'est pas la peine. Et pourtant, en repartant, je réfléchis, je me dis, mais pourquoi, c'est vrai, ces lettres dans sa voiture? Et ce n'est pas si difficile d'imaginer ce petit carillonneur qui avait écrit toute sa vie des poèmes, des lettres à des filles, à ses instituteurs. À part les instituteurs, parfois, il n'avait eu jamais de réponse. Il était seul. Et il dormait dans sa 2 chevaux le soir pour ne pas rentrer chez lui lorsqu'il travaillait à Lavore. Quoi de mieux à ce moment-là que d'avoir quelques lettres à lire? Il ouvrait au hasard des lettres pour réchauffer son cœur de carillonneur solitaire. Thank you. aurez reconnu sûrement l'accordéon, la musique de Grand-mère essoufflée qui accompagnait ces histoires de Girouxens. Et tiens, et pour finir, puisqu'on a un peu de temps, une autre histoire, mais en chanson, cette fois racontée par Emmanuel Parizel avec son accordéon.
Le gars était un tâcheron, n'ayant que ses bras pour fortune. La fille, celle du patron, un gros fermier de la commune. Ils s'aimaient tous deux tant et plus, ils s'aimaient tous deux tant et plus. Écoutez ça, les bonnes gens, petits de cœur et gros d'argent. Écoutez ça, ils s'aimaient tant et plus, l'amour ça se fout des écus. Lorsqu'ils s'en revenaient du bal, vers les minuits clairs d'assemblée, au risque d'un procès verbal, ils faisaient de larges foulées. Au plein des blés profonds et droits, au plein des blés profonds et droits. Écoutez ça, les bonnes gens, qu'un bicorne rende l'OTAN. Écoutez ça, les blés profonds et droits, l'amour ça se fout de la loi. Un jour s'en furent tous deux prier, elle son père et lui son maître, de les laisser se marier, mais le vieux les envoya paître. Alors ils prirent la clé des champs, alors ils prirent la clé des champs. Écoutez ça les bonnes gens, qui respectaient les cheveux blancs. Écoutez ça, ils prirent la clé des champs, l'amour ça se fout des parents. S'en furent dans quelques cités, loin des labours et des jachères. Passèrent ensemble un été, puis tout à coup ils se fâchèrent. Et se quittèrent bêtement, et se quittèrent bêtement. Écoutez ça, les bonnes gens, marié, cocu et puis content. Écoutez ça, ils se quittèrent bêtement. L'amour, ça se fout des amants. L'amour, ça se fout des amants.
Voilà une histoire un peu désenchantée. Mais compte à rebours, c'est fini pour aujourd'hui. Heureusement, il y aura une prochaine fois. Donc, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. C'était Marco. Ciao.